Monsieur Didier Salva, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Didier Salva, vous êtes, je crois, le dirigeant, de la C2IB.
Oui, tout à fait. C2IB, qui est Conseil Ingénierie Introduction Boursière pour les PME, qui a été créé il y a une vingtaine d'années déjà.
Alors, vous avez créé dans les années 80, je crois, le CIB, le Centre d'information boursière, qui avait pour but de rapprocher les Français des entreprises locales qui cotaient journalièrement, mais en fait, qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Vous avez fait découvrir aux entreprises qu'elles pouvaient trouver localement des particuliers intéressés à devenir actionnaires de ces entreprises, et vous avez également expliqué par voie de presse et de réunions locales comment les Français pouvaient devenir associés de ces entreprises, et vous avez mis en place, en utilisant les bourses régionales notamment, des moyens simples pour qu'ils en deviennent actionnaires. Vous avez provoqué la création de moyens d'acheter des actions, par exemple le second marché et le hors-cote d'acclimatation. Ce fut un succès, je crois, assez important, puisque en 5 ans, 7 millions de Français ont découvert à quoi servait la bourse et sont devenus actionnaires de PME. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, monsieur Salva, alors qu'il y avait plus de 10 millions d'actionnaires à cette époque, ce chiffre est tombé en dessous de 3 millions en 2016. Pensez-vous qu'il existe un moyen de renverser cette courbe de désamour pour la bourse et les PME?
Oui, effectivement, donc depuis ces 2 dernières décennies, le nombre d'actionnaires, comme vous l'avez évoqué, est passé de 3 à 10 millions courant des années 80. Il y a eu jusqu'à 11 millions d'actionnaires début des années 90 et ça a chuté, ça n'a pas arrêté de chuter. Finalement, c'est les fonds d'investissement, les banques qui se sont accaparées la clientèle des agents de change. Donc finalement, au fil du temps, c'est simplement une question commerciale des banques qui ont créé différents produits, des fonds d'investissement. Tout ça n'a pas donné bon au cœur pour les particuliers d'investir dans les PME en passant par la bourse. On est convaincu qu'il y a vraiment un besoin, et ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait, qu'il y a des millions qui pourraient revenir à condition d'avoir des règles, et notamment ce principe des bourses régionales et de l'esprit des bourses régionales, c'est quand même quelque chose d'intéressant, l'affinité, l'affectif de chacun d'entre nous, d'avoir une appartenance territoriale. Deuxième point intéressant, c'est qu'avec Internet, ça permet évidemment, il ne s'agit pas on n'a pas l'intention de recréer les bourses régionales telles qu'elles existaient, il y en avait 7, physiquement, à Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Nantes, Lille et Paris. Physiquement, il y avait un endroit où se réunissaient des agents de change pour coter des valeurs physiquement. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, donc on a remis en place un outil. Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle le crowdfunding qui est apparu, qui a une maîtrise d'Internet intéressante. Donc nous, on a en fait s'inspiré, en fait, à la fois de notre vécu des bourses régionales et d'un mécanisme de système de cotation électronique. Ça, c'est une chose. Donc, deuxième chose, il faut quand même qu'il y ait un traitement égalitaire des actionnaires et que le prix des actions soit quand même correct, de manière à ce que les particuliers puissent faire des plus-values en cas de succès des entreprises. Donc, on est en train de recréer ces conditions. Et donc, on pense vraiment, et d'autant plus qu'il y a un besoin de financement des PME qui va de plus en plus fort. Et finalement, il y a un besoin de compétitivité mondiale. Donc aujourd'hui, financement en fonds propres des PME avec l'actionnariat individuel et sous une nouvelle forme de bourse régionale, c'est évident que ça répond à un besoin économique de société plus crucial que jamais.
Oui, alors justement, ça faisait peut-être l'objet de ma deuxième question. Vous êtes en train de créer un nouveau marché dans le même esprit que dans ces années 80, mais avec des moyens électroniques de notre époque. Pouvez-vous nous présenter comment ça va fonctionner?
Donc depuis ces 20-25 dernières années, CDIB, qui est à l'origine de la création de son marché, nous-mêmes en société anonyme, on prévoit nous-mêmes d'augmenter le capital, peut-être qu'on en parlera ultérieurement. Et donc cet outil qu'on appelle le carnet d'annonces, en fait, on a fait en quelque sorte de la recherche et développement depuis ces 20 dernières années. Et ce carnet d'annonces, qui a été labellisé par le Pôle mondial de compétitivité Finance Innovation il y a quelques mois en arrière, ce carnet d'annonces est reconnu par les spécialistes de la bourse à travers le pôle finance innovation. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, CDIB est agréé listing sponsor par Euronext. Donc on a quand même une qualification unique en France pour aller dans ce sens. Et le marché qu'on a mis en place, donc ça s'appelle un carnet d'annonces. En fait, c'est simplement une bourse interne aux entreprises qu'on greffe à l'intérieur de n'importe quelle entreprise, à condition, alors c'est là qu'il y a un savoir-faire où il faut être quand même assez vigilant. La sélection des entreprises, il faut qu'elles soient en société anonyme et éventuellement en SAS avec les statuts qui respectent certains droits de l'ASA. D'autre part, il faut que l'entreprise ait une réelle perspective de développement. Et troisième chose, qu'elle ait un prix quand même d'émission attractif, c'est-à-dire ne pas être jaloux que les dirigeants ou les actionnaires fondateurs qui vont ouvrir le capital ne soient pas jaloux que les petits actionnaires gagnent quelque chose en investissant dans leur entreprise. Au contraire. Donc techniquement, on a un outil qu'on greffe sur un site internet. Ça fonctionne tout simplement. C'est comme un carnet d'ordre, en fait. Un carnet d'ordre, c'est quand des sociétés cotées en bourse, aujourd'hui, n'importe qui peut passer des ordres à l'achat ou à la vente. Le carnet d'annonce, c'est exactement le même principe. Simplement, ce carnet d'ordre, qu'on appelle carnet d'annonce, est accessible sur le site de l'entreprise à travers un onglet. Et parallèlement au carnet d'annonce, dans lequel les gens peuvent boursicoter, en fait, localement, au sein d'une entreprise de proximité. Parallèlement à ça, c'est également important, c'est l'information financière, économique et financière sur l'entreprise. S'il n'y a pas d'information, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit, ni de faire appel au marché primaire, de faire l'augmentation de capital, ni faire fonctionner le marché secondaire. Donc, carnet d'annonce, c'est simplement un outil à disposition des petites entreprises qui ont de fortes perspectives de croissance. Donc la cible, c'est environ sur les 400 000 TPE en France. On pense que 1 pour 1 000, dans un premier temps, pourrait rapidement utiliser le carnet d'annonce. 1 ou 2 pour 1 000. Enfin, en fait, on en vise 1 000. On vise 1 000 entreprises dans les 5 ans qui viennent. Quel est le potentiel de croissance, de manière à ce que l'entreprise puisse, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, rentrer sur le marché libre et pourquoi pas sur Internet dans la foulée.
Vous avez introduit une notion qui est la notion de risque. Un investissement, c'est prendre des risques quelque part. Comment espérer réduire ces risques?
Comme vous évoquez dans la sélection, évidemment, l'investissement par action, c'est un risque évident. On peut tout perdre. On ne risque pas au-delà de son investissement pour un actionnaire. Ensuite, la valorisation limitée, c'est déjà, comme je vous évoquais, ces 20 dernières années, dans le cadre de recherche et développement, on s'est intéressé beaucoup à la création d'entreprises. Là, c'est un domaine qu'on exclut totalement. Un des critères, c'est qu'au moins 3 bilans minimum. Ça suppose déjà que ce n'est peut-être pas sympa pour les créations d'entreprises, mais on doit avant tout être sympa pour les particuliers, les épargnants qui investissent dans l'entreprise, qu'ils essayent de récupérer quelque chose, qu'ils fassent une plus-value. C'est ça qui va leur donner envie de venir.
Monsieur Didier Salva, le problème de la liquidité, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Comment peut-on être sûr que l'on va pouvoir revendre les actions que l'on a achetées ou souscrites?
Effectivement, point fondamental, la liquidité, donc c'est la possibilité d'acheter et de revendre librement, sans demander l'avis à personne, d'une part. Donc cette possibilité, elle existe sur le carnet d'annonces, comme sur n'importe quel marché d'actions, un endroit où on passe des ordres ou des annonces d'achat et de vente, il y a des acheteurs, des vendeurs. Après, effectivement, il faut que ça se concrétise et de faire en sorte que ça s'échange, que ça fonctionne vraiment. Donc finalement, pour que ça s'échange et que ça fonctionne vraiment, c'est proportionnel au flottant, on appelle ça la liquidité. Le flottant, c'est le pourcentage du capital en circulation, plus le nombre d'actionnaires. Effectivement, des petites sociétés à faible flottant et avec peu d'actionnaires, il n'y aura pas autant d'échanges qu'il peut y avoir pour Eurotunnel, il y a des centaines de milliers d'actionnaires, c'est évident. Là, on peut travailler le sujet. On peut arriver à ce que les petites sociétés à faible flottant aient une liquidité proportionnellement équivalente à Eurotunnel. C'est-à-dire que les petites sociétés qui ont une centaine ou 200 actionnaires, quand ils passent une vente ou un achat, donc l'objectif de notre démarche, c'est quand même de doter les fonds propres des PME, pardon, pas de vie. Ensuite, le marché secondaire, le carnet d'annonce, c'est la possibilité d'acheter et revendre librement. Donc les personnes souscriront aux augmentations de capital s'ils savent qu'ils pourront, quand ils le souhaitent, acheter et vendre librement. Donc passer des annonces ou des ordres d'achat ou de vente, c'est une chose. Après, on les passe comment? En fonction de l'information financière. Donc indissociable de bon fonctionnement d'un marché d'actions ou d'un carnet d'annonce, c'est l'accès régulier, mis à jour, de l'information économique et financière sur l'entreprise. Alors on peut y accéder au greffe, hein. Il y a différents moyens de se débrouiller. Dans notre banque d'information, enfin sur notre carnet d'annonces, il y a associé une banque d'information, communiqué trimestriel, bilan archivé, rapport d'assemblée, une banque d'information complète qui permet de se faire une idée, je vends, j'achète. Donc premier élément pour améliorer la liquidité, l'information. Deuxième élément, on intervient physiquement si besoin pour faciliter ce qu'on appelle un contrat d'animation, l'équivalent d'un contrat de liquidité pour une société cotée. Pour une petite société, on va créer l'équivalent, c'est-à-dire si l'information ne suffit pas pour susciter des achats ou des ventes, on va intervenir physiquement pour donner un coup de pouce. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre 100 actions à 100 euros et en face, il y a un acheteur qui est prêt à acheter simplement à 90. S'il n'y en a aucun des deux qui décide, malgré une bonne information des deux, on va essayer de communiquer plus largement à l'extérieur au-delà du cercle d'actionnaires, dans le public. On va élargir la communication financière. Et si besoin, donc, on peut éventuellement intervenir. Donc, ça permet de donner un coup de pouce, de décider, bon, bah, OK, on achète, mais pas forcément au prix. Si la personne veut les vendre à 100, bah, on va peut-être se décider à un peu moins cher. Il ne s'agit pas de faire plaisir. Il s'agit également que le cours de l'action reflète la valeur normale de l'entreprise.
Bien sûr. Pour revenir à votre carnet d'annonces, M. Salva, existe-t-il des avantages fiscaux pour investir dans ce carnet ?
Alors, pas dans le carnet d'annonces. Avantages fiscaux, c'est les classiques. Hein, sur l'ISF, sur l'IRPP, quand on investit dans une société de mon côté, il y a des conditions, on peut en détail. Quand on achète des actions d'occasion, donc déjà existantes, pas d'avantages fiscaux, sauf on peut les mettre dans un PEA éventuellement.
Oui. Est-ce qu'il y a au niveau donc de la C2IB des moyens financiers humains qui sont comment dirais-je assez conséquents et qui permettraient de lancer une telle opération ?
C2IB justement, malgré nos 20 ans d'expérience, 54 introductions en bourse, environ 600 millions d'euros collectés avec 30 000 actionnaires, donc c'est une expérience mythique, on peut dire, C2IB, qui a ouvert la voie au second marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec des moyens quand même artisanaux. Et donc, on a refait donc ces périodes de recherche et de manque suite qu'on a eu. Le fait qu'on soit resté complètement indépendant, nous-mêmes, on n'a jamais ouvert notre propre capital. On est une société anonyme, capital de 235 000 euros. Et donc, il est familial ou amical, il y a une dizaine d'actionnaires. On est nous-mêmes une société anonyme. Alors, on est en train de préparer pour la première fois notre propre augmentation de capital. Pour humainement, l'objectif, bah, c'est d'accélérer le développement commercial du carnet d'annonces et de recruter des personnes, d'accélérer également sur le plan équipe, bah, dans différents pôles, formation, ingénierie financière, back-office, communication et un certain nombre de corps de métier. Donc nous-mêmes, on est en train de préparer notre propre augmentation de capital qui va se déclencher au dernier trimestre de cette année.
Alors, M. Salva, l'élection présidentielle 2017, ça me fait penser à une chose. Est-ce que peut-être un candidat à cette élection présidentielle française serait intéressé par ce que vous proposez ?
Tous, il le ferait. Hein. Mais après, il y a des raisons électorales, politiques. Macron, par exemple, il a quand même il y a la loi Macron en août 2015 qui prévoit, donc on est en train de l'encenser, Macron. Formidable, c'est un héros. Qu'est-ce qu'il disait dans la loi Macron ? L'article 63, je crois, de la loi Macron, août 2015, recréation des bourses régionales. Alors, ça va 100% dans notre sens, en phase totale. Le problème, c'est que c'est resté sur un texte de loi qui n'a jamais été mis en œuvre. On l'a relancé au mois de janvier, il y a 6 mois en arrière, et finalement, pas de réponse. Il faut qu'il trouve un intérêt électoral, et il aurait un intérêt électoral, puisque relancer l'esprit des bourses régionales modernes, qui créerait des emplois et même un courant... communauté des Français à investir dans l'économie française. Je pense que politiquement, au niveau popularité, bah, c'est excellent. Après, il faut passer à l'acte. Et passer à l'acte, c'est là que, bah, ils sont quand même entourés par des conseillers qui ont des relationnels dans les banques, les fonds d'investissement, etc. Donc il y a peut-être un problème de conflit d'intérêts réel. Mais sur le plan politique, nous, on pense qu'il y en a quand même un qui va essayer de se démarquer des autres pour essayer de passer à l'acte, de travailler vraiment le sujet qu'en France, on est à nouveau plusieurs millions d'actionnaires dans les PME.
Dernière question, Monsieur Jean Salva. Pensez-vous que Euronext ou les pouvoirs publics que nous évoquions précédemment vous appuieraient cette démarche donc de réorienter vers les PME et la bourse, bien sûr, ces millions d'épargnants qui l'ont un peu déserté ?
Alors, pareil, les pouvoirs publics, ou même l'AMF ou Euronext, ont toujours un œil bienveillant sur nos activités depuis 25-30 ans. Après, dans la mise en œuvre, bah, le fait qu'on soit encore une fois avec des moyens extrêmement modestes comparés à d'autres acteurs dans notre secteur d'activité fait que, bah, on se retrouve un petit peu isolé. À nous de retravailler notre propre modèle économique, ce qu'on est en train de faire, l'activité commerciale, de ces deux idées. Et finalement, avec ses partenaires Euronext, actuellement, il se trouve qu'il y a un point de synergie, notamment en ce qui concerne le marché libre. Notre carnet d'annonces, il ne faut pas perdre de vue que c'est donc un marchepied pour les petites entreprises qui un jour pourront aller sur le marché libre, mais pourquoi pas plus tard sur Alternext. Donc si la terre d'accueil marché libre essaie d'exister, ce n'est pas très bon commercialement pour le carnet d'annonces. Donc actuellement, il se trouve qu'on retravaille le marché libre et je pense qu'il y a intellectuellement, en tout cas, il n'y a rien d'officiel, mais avec Euronext, il y a quand même plus que des atomes crochus pour essayer de redonner cette lettre de noblesse au marché libre. Après, avec les autres partenaires, je pense que tout à l'heure, on a évoqué le PEA, qu'il pouvait y avoir des avantages fiscaux. Le seul avantage, quand on achète des actions, donc la différence entre acheter, c'est des actions déjà existantes. L'argent ne rentre pas dans l'augmentation de capital. Et donc, quand on achète des actions déjà existantes par le carnet d'annonces, on peut les mettre sur un PEA. Simplement, ouvrir un PEA, ça coûte des sous aux particuliers. Et il se trouve que les banques, aujourd'hui, font payer extrêmement cher. Je ne préfère même pas donner les montants. Ça paraît, hein, on a l'impression de ne pas y croire, mais bon, si, je vais donner un exemple, comme Boursorama qui fait payer 500 euros l'ouverture d'un compte PEA pour mettre des actions non cotées. Là encore, pour dissuader les Français à utiliser les PEA pour mettre des actions de PME réelles, c'est incroyable. Mais donc là, je pense qu'il y aura encore un travail de lobbying économique à travailler, et nous tout seuls, c'est pas possible. Donc ça va être tout ça, ça va un petit peu de pair, une autre augmentation de capital, retravailler les partenariats avec le monde économique et politique. Et donc on a un projet assez ambitieux également.
Monsieur Jean Salva, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de CI2B et merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.